Chapitre 7. Les jeunes colons pensent qu'il faut maintenant être très prudent et rester le plus possible près de Frenchden tant que Walston et ses hommes n'ont pas quitté l'île. Cependant, il devient bientôt difficile de vivre dans ces conditions car les enfants ont besoin de s'éloigner de temps en temps de Frenchden pour chasser ou pour trouver diverses plantes dont ils se nourrissent. Brian cherche sans cesse le moyen de vérifier si Walston est encore sur l'île. Un jour, une idée lui vient. Il se rappelle avoir lu dans un livre qu'une femme avait osé s'élever dans les airs suspendue à un cerf-volant. Il fait sa proposition à ses camarades. « En montant à une certaine hauteur, je peux voir toute l'île et savoir si ces hommes sont encore ici. »«
C'est une opération dangereuse, » dit Gordon.
« Sans doute, » dit Brian. « Mais il faut essayer. » « Qui se suspendra au cerf-volant ?» demande Gordon.
« Nous verrons, » répond Brian.
« Je crois que tu as déjà fait ton choix, Brian. »«
Peut-être, » ajoute ce dernier.
Le 5 novembre, on installe une nacelle, un des paniers trouvés dans le sluggy et qui servent à tout, au cerf-volant. Deux jours après, les enfants placent dans la nacelle un sac de terre d'un poids comparable à celui du plus lourd des jeunes garçons.
« Attention !» crie Brian.
« Nous sommes prêts, » répond Donifan.
« Allez !»
Les enfants qui retiennent la nacelle et le cerf-volant commencent à lâcher de la corde et le cerf-volant s'élève dans les airs. L'expérience est réussie. Le lendemain, l'opération doit se réaliser.
« Rentrons, » dit Gordon. « Il est tard. »«
Un instant, » dit Brian.
« Nous venons d'essayer le cerf-volant et tout s'est bien passé. »«
Est-ce que nous savons le temps qu'il fera demain ?»«
Pourquoi ne pas faire l'opération aujourd'hui ?»«
Qui veut monter ?»
« Moi !» dit vivement Jacques.
« Moi !»
s'écrient à la fois Donifan, Baxter, Wilcox, Cross et Service.
« Frère, c'est à moi de le faire. »«
Oui, à moi. Je t'en prie, laisse-moi partir. »«
Et pourquoi toi plutôt que moi, plutôt qu'un autre ?» demande Donifan.
« Parce que je le dois, » répond Jacques.
« Qu'as-tu fait ?» demande Donifan, « pour réclamer ce droit ?»«
Ce que j'ai fait, » répond Jacques.
« Ce que j'ai fait. » « Je vais vous le dire. »«
Jacques !»
s'écrie Brian, qui veut empêcher son frère de parler.
« Non !»
reprend Jacques d'une voix très émue.
« Il faut que je parle. J'ai trop honte. »«
Gordon, Donifan, si vous êtes loin de vos parents, sur cette île, c'est de ma faute. »« Par plaisanterie, j'ai détaché la mare qui retenait le sluggy au quai d'Auckland. »« Quand le yacht est parti à la dérive, j'ai eu peur et je n'ai rien dit. »
Oh, pardon, mes camarades. Pardon.
Et le pauvre garçon ne peut plus ajouter un mot. De grosses larmes coulent sur ses joues. Kate, le prenant dans ses bras, essaie de le consoler.
Je comprends maintenant, dit Gordon, pourquoi Brian voulait toujours te voir agir quand il y avait du danger.
Nous te pardonnons, Jacques, de tout notre cœur.
Oui, dit Donifan,
ne t'inquiète pas. Tu es pardonné.
Brian prend son frère dans ses bras, puis Jacques va serrer la main de tous ses camarades.
« Bien, » dit Brian.
« C'est moi qui vais partir. »«
Non, » dit Jacques, « laisse-moi faire. »«
Tu es trop ému, » répond Brian en se mettant dans la nacelle.
10 minutes après, le cerf-volant quitte le sol. Brian, sûr de lui, tend d'abord la corde que ses amis retiennent, puis observe l'horizon.
À l'est, il remarque une tache blanche.
Qu'est-ce que cela peut bien être, se dit-il.
Un glacier?
Il regarde encore plus attentivement avec une lunette qu'il a emportée.
Près du glacier, il semble voir une montagne.
Est-ce que par hasard elle appartient à un continent?
Il continue à observer et voit plus près de lui, à 5 ou 6 milles environ, à l'ouest du Family Lake, et donc sur l'île, un feu. Walston et ses camarades sont toujours là.
Brian en a assez vu.
Il donne à ses camarades le signal de le redescendre.
La descente se fait petit à petit.
Enfin, la nacelle qui est au-dessus du lac tombe dans l'eau et tous courent aider Brian. Mais Brian s'est déjà jeté dans le lac et arrive à la nage. Il raconte à ses amis ce qu'il a vu et leur redonne un peu d'espoir quand il leur fait savoir que l'île Sherman ne semble pas isolée dans le Pacifique. Mais malheureusement,
Leur joie cesse quand ils apprennent que Walston est dans les environs.
Le 24 novembre, une découverte préoccupe énormément les enfants. Brillant et Gordon, qui sont allés faire une courte sortie du côté de la rivière pour voir si tout est en ordre, trouvent une pipe sur la rive. Ils la ramènent à Kate, qui affirme qu'elle appartient à Walston. Il faut maintenant être plus que jamais sur ses gardes. Il est évident que les criminels sont dans les environs. On est le 27 novembre. Il fait très chaud et à 9h30 du soir, un violent orage éclate. Les petits, couchés dans leur lit, ont un peu peur. Enfin, vers minuit, l'orage semble s'éloigner et les enfants commencent à se rassurer. Les grands décident d'aller se coucher lorsque Fan commence à s'agiter nerveusement et à gratter à la porte de la caverne. Soudain, on entend un coup de feu. Les enfants courent chercher leurs armes et se postent derrière la porte. Une voix crie alors du dehors « À moi ! À moi !» Kate, près de la porte, écoute. « C'est lui !» s'écrie-t-elle. « Lui ?» demande Brillant. « Ouvrez ! Vite ! Vite ! » crie Kate. On ouvre la porte. Un homme se précipite dans la caverne. C'est Evans, l'homme d'équipage du Severn. C'est un homme de 25 à 30 ans. Il est fort et à l'œil intelligent et le visage sympathique. À peine entré, il se retourne, met l'oreille contre la porte, puis, n'entendant rien, il murmure ces mots. « Oui, des enfants, rien que des enfants !» Puis son visage s'éclaire d'un sourire et ses bras s'ouvrent. « Kate !» s'écrie-t-il. « Kate, vivante !»« Oui, vivante, comme vous, Evans. »« Est-ce que nous risquons d'être attaqués, monsieur Evans ?» demande Brillant. « Pas pour l'instant, mon garçon, » répond Evans. « Mais bientôt !»« Ils savent tout, » dit Kate à Evans. Puis elle lui raconte toute l'histoire des jeunes garçons. Leur naufrage, comment ils se sont installés sur l'île. Enfin, elle ajoute « Que se passe-t-il maintenant ? Que font Walston et ses hommes ?»« Ils cherchent des outils pour réparer la chaloupe et quitter l'île. Un jour, ils ont vu un cerf-volant voler dans les airs. » Et ils ont compris que quelqu'un habite l'île. Ils ont décidé de se rapprocher de l'endroit où est apparu le cerf-volant, et c'est ainsi qu'ils ont découvert qu'il n'y a que des enfants ici. Ils sont maintenant tout près de Frenchden, et ils préparent une attaque. Il y a 12 heures, j'ai profité d'un moment où ils étaient absents pour m'enfuir. Ils ont découvert que je n'étais plus là, et sont partis à ma recherche. Sans votre aide, je serais sûrement déjà mort. « Mais ensemble, nous allons en finir avec ces assassins, vous verrez !»«
Hourra pour Evans !
Hourra pour Evans !»
s'écrie d'une seule voix tous les jeunes colons. « Monsieur Evans, » dit Gordon, « vous comptez sur la chaloupe du Severn pour quitter l'île ?»« Oui, monsieur Gordon. »«
Pour traverser le Pacifique ?» ajoute Doniphan.
« Le Pacifique ?»«
Non, mes enfants, » répond Evans, « mais pour gagner un endroit peu éloigné afin de pouvoir revenir à Auckland. »«
Est-ce possible, monsieur Evans ?» s'écrie Brillant.
« Ce n'est donc pas la mer qui s'étend autour de l'île ?» demande Doniphan.
« À l'ouest, oui, » répond Evans. « Mais au sud, au nord, à l'est, ce ne sont que des canaux qu'on peut facilement traverser en 60 heures. »«
Oui, à l'est !» s'écrie Brillant. « Cette tache blanche que j'ai vue dans cette direction !»«
Une tache blanche, dites-vous ?» dit Evans.
« C'est un glacier. Mais voyons, mes enfants, où pensez-vous être ?»
« Dans l'une des îles isolées du Pacifique ?» répond Gordon.
« Une île ? Oui. Isolée ? Non. Elle appartient à l'un de ces nombreux archipels qui couvrent la côte de l'Amérique du Sud. Et au fait, comment appelez-vous cette île ?»«
L'île Sherman, du nom de notre pensionnat, » répond Doniphan.
« L'île Sherman, » dit Evans.
« Eh bien, elle aura deux noms, car elle s'appelle déjà l'île Hanovre. »
Les enfants apprennent alors qu'ils ne sont séparés du Chili que par des détroits. Il est donc enfin possible de penser à regagner la Nouvelle-Zélande s'ils en finissent avec Walston et s'emparent de la chaloupe du Severn. Le lendemain matin, tout se passe bien. Le soir, avant le coucher du soleil, Webb et Cross, qui sont dehors, voient approcher deux hommes et courent avertir leurs camarades. Kate et Evans observent discrètement les hommes, puis ils déclarent que ce sont Rock et Forbes.
Ils vont vite se cacher dans une petite pièce que les enfants ont construite dans la caverne et qui leur sert à ranger beaucoup d'objets quand ils ne les utilisent pas. Quelques instants après, Gordon dit aux deux hommes
« Qui êtes-vous ? »
« Des naufragés. Nous nous sommes perdus avec la chaloupe de notre bateau, le Severn. »«
Vous êtes anglais ? » ?»«
Non, américain. » »«
Et vos compagnons ? » ?»«
Ils sont tous morts. C'est horrible. Nous sommes très fatigués.
Pouvez-vous nous donner quelque chose à manger et nous permettre de dormir pour reprendre des forces ?»«
Entrez !» répondent Brian et Gordon.
Après avoir mangé, Rock et Forbes vont aussitôt se coucher. Les enfants font bientôt de même. 2 heures passent. C'est alors que, de leur couchette, ils voient Rock et Forbes se lever et ramper jusqu'à la porte. Arrivés là, les deux hommes se relèvent pour l'ouvrir. Une main se pose soudain sur l'épaule de Rock. C'est celle d'Evans.
« Aidez-moi, les enfants !» crie Evans.
Les enfants se précipitent alors sur Forbes et l'empêchent de bouger. Mais Rock a reconnu Evans et essaie de lui donner un coup de couteau. Evans se retire rapidement et Rock parvient à s'enfuir. Evans tire un coup de feu et le tue. Entre-temps, Forbes a réussi à se dégager des enfants et il essaie également de fuir. Le même sort que son compagnon l'attend. Mais Walston et le reste de ses hommes sont cachés près de là et ils commencent à tirer des coups de feu. Les enfants, bien armés, répondent à leur attaque. 2 autres hommes tombent morts. Les autres s'enfuient dans la forêt. Le reste de la nuit est calme. Le lendemain matin, les grands partent avec Evans à la recherche de Walston et du reste des criminels, pendant que les petits, avec Kate, s'occupent d'enterrer les morts. Les enfants et Evans, accompagnés de Fan, avancent avec prudence dans la forêt. Tout à coup, ils entendent un coup de feu sur la droite. Une balle passe au-dessus de la tête de Brian. Un autre coup de feu part aussitôt, suivi d'un cri. C'est Donifan qui a tiré au hasard. Fan se précipite vers l'endroit d'où est venu le cri. Donifan et ses compagnons courent derrière lui. Un homme est couché au pied d'un arbre.
« C'est Pike !» dit Evans. « Il est mort.
Un de moins. »«
Les autres ne doivent pas être très loin !» dit Baxter.
« En effet, » dit Evans. « Attention, mes enfants, restez ensemble et avancez prudemment. »
Un autre coup de feu éclate, à gauche cette fois.
Donifan répond. On entend un nouveau cri et un bruit de course. Tous se précipitent. Ils trouvent un homme mort et voient un autre qui fuit à toute vitesse. C'est Walston.
Evans tire.
L'homme tombe. Il essaie de se relever. Mais en vain, il retombe. Il est mort.
Les enfants ne peuvent le croire. Ils sont enfin débarrassés de ces horribles assassins. Ils peuvent maintenant penser à retourner dans leur cher pays.